Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 34, quelques jours à Singapour. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et ceci est la suite et fin de notre discussion sur Singapour avec Ariane Nabarro, française installée ici depuis 18 ans et qui en est devenue la seule guide francophone. Et cette fois, nous allons parler de tout l'aspect touristique de Singapour. Alors si vous avez raté l'épisode précédent où on parlait de l'histoire du pays de 1819 à nos jours, je vous invite vraiment à l'écouter avant ou après celui-ci puisque c'est somme toute très complémentaire. C'était pour moi important de finir la saison 2015 de Sur les routes de l'Asie avec Singapour, pour deux raisons, puisque d'abord c'est ici que j'habite depuis 5 ans, mais aussi parce que le pays a fêté les 50 ans de son indépendance plus tôt cette année en août, et je trouvais important d'en parler sur l'aspect historique et touristique. Alors on embarque à nouveau pour Singapour, bienvenue dans la ville du Lion.
Next station, Raffles Place.
Eh bien, bonjour Ariane, bienvenue à nouveau sur les routes de l'Asie.
Eh bien, bonjour Romain.
C'est un plaisir de vous retrouver chez vous à nouveau, à Emerald Hill à Singapour. Et dans la première partie de cette double émission sur Singapour, on a balayé avec vous l'histoire de Singapour, l'histoire riche de Singapour, donc depuis 1819, depuis la découverte de Stamford Raffles, à 2015, de nos jours. Et on a voulu consacrer cette deuxième partie de l'émission à parler tourisme, évidemment, puisque dans l'émission, on aime parler tourisme et on aime parler des choses à faire et à voir et donner des conseils aux gens qui veulent visiter les lieux dont on parle. Donc Singapour, comme on l'a dit dans la première émission, tout petit territoire de 700 km², coincé entre l'Indonésie et la Malaisie, peu de ressources naturelles, un relief quasi inexistant. Je crois que le point culminant, c'est 400 et quelques mètres, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais une situation géographique exceptionnelle en Asie du Sud-Est. Et puis quand même, cette ville-État qui bouillonne avec une énergie folle, un succès économique, on en a parlé dans la première partie, qui n'est plus à démontrer, et aussi maintenant un intérêt touristique, un vrai intérêt touristique. Les statistiques le montrent, il y a de plus en plus de gens qui viennent visiter Singapour, alors qu'ils viennent peut-être passer une semaine ou qui viennent juste quelques jours. La forme la plus classique de visite pour Singapour, c'est vrai que c'est de venir 3 jours à peu près, en allant vers Bali, en allant vers la Malaisie, en allant vers l'Indonésie. Les gens s'arrêtent, font un transit. Parce que voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. On va en parler avec vous. Est-ce qu'on peut commencer par, alors je l'ai un petit peu introduit, mais peut-être plus en détail, parler de la géographie de Singapour. Qu'est-ce qui caractérise Singapour géographiquement?
Alors j'aime à dire, quand les Français arrivent à Singapour, vous êtes dans un pays équatorial. Il fait chaud. C'est humide, normal, on est à 80 km au nord de l'équateur, donc voilà. Pays équatorial, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous? Ça veut dire que tout au long de l'année, le soleil se lève à 7h du matin et se couche à 7h du soir. Tout au long de l'année, on a plus ou moins 95% d'humidité, donc c'est humide, c'est très humide. Et puis on a entre 28 à 34 degrés pratiquement tout au long de l'année. Il m'arrive d'avoir froid à Singapour. Ouh là 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 là, il fait 25 degrés. Je sais que pour les Français, c'est terrible. Mais oui, Romain, quand il fait 25 degrés à Singapour, je mets un pull à manches longues, et je pense que vous aussi, parce qu'on a froid, parce qu'on est habitué à cette chaleur. Quand on parle de Singapour, on pense toujours à l'île de Singapour. Mais l'île de Singapour, c'est toute petite partie de Singapour, puisque Singapour, c'est la réunion de 62 îles. 62 îles, dont la plus grosse est l'île de Singapour, mais il y a aussi l'île de Sentosa. Il y a aussi l'île de Pulau Ubin. Pulau en malais, on l'a dit dans notre émission de l'autre jour, le malais c'est la langue nationale, hein. Ça veut dire île, et Ubin ça veut dire le granit. Et puis vous avez toutes ces petites îles qui sont autour de Singapour. Et quelquefois c'est même un petit rocher de rien du tout, mais un rocher qui a beaucoup d'importance, parce que grâce à ce rocher, l'État de Singapour va pouvoir faire sa politique de réclamer de la terre sur la mer et créer un espace de terre. Vous savez, Singapour, Romain, qu'à Singapour, nous avons plus de 25% de terre que nous avons gagnée sur la mer. C'est extraordinaire depuis l'arrivée de Raffles. Aucun pays n'a jamais fait ça. Même les Hollandais l'ont pas fait.
Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable, assez unique. Alors, il y a Dubaï qui s'amuse aussi à dessiner un petit peu des îles artificielles au large. Mais Singapour, effectivement, c'est une géographie qui change, et c'est important de le préciser. Il y a plein de quartiers à Singapour qui sont mangés sur la mer. Alors, ça s'appelle, je crois, poldérisation en français. On dit reclaimed land en anglais. Et il y a un bel exemple, c'est Beach Road. Donc, il y a une rue qui s'appelle Beach Road à Singapour et qui, avant, était, bah, concrètement, la plage. Donc, quand on était sur cette partie de l'île, on était face à la mer. Et aujourd'hui, on est peut-être à quoi, 300 mètres de la plage, au moins, voire plus. Et c'est une rue d'ailleurs où il y a beaucoup de shopping malls, d'hôtels, et on a du mal à imaginer qu'il y avait la mer avant ici. Et le nom, seulement le nom Beach Road nous le rappelle. C'est vrai que c'est assez amusant. Alors, oui, très petit, comme vous l'avez dit, Singapour, ils aiment s'appeler eux-mêmes le red dot, donc le point rouge, puisqu'en fait, sur une carte, quand on met le point sur Singapour, bah finalement le point cache l'île. Le point est plus gros que l'île elle-même, donc c'est toujours un peu amusant à mentionner. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet au niveau des différents quartiers, des différents lieux principaux de l'île. Alors comment sont organisés ces quartiers à Singapour?
Alors, quand Truffles est arrivé, il a établi Sport Franc et puis il s'est rendu compte très vite que la population était très désorganisée. Et donc il a créé des quartiers. Alors, il a pris comme base la rivière Singapour. Et autour de la rivière Singapour, tout ce qui est au nord de la rivière, en fait, c'est le quartier chinois. Et puis c'était aussi à l'époque le quartier indien. Et puis après, de l'autre côté de la rivière, il a installé tout ce qui était le quartier administratif. J'ai oublié de vous parler d'un tout petit endroit qui s'appelait le Commercial Square, parce que c'est un petit carré sur la carte, qui deviendra plus tard le Raffles Place, qu'on connaît tous, c'est là où sont toutes les grandes banques, les grandes sociétés d'assurance, les grands cabinets d'avocats. Et puis après, donc il a mis de l'autre côté de la rivière le quartier des administrations, l'administration coloniale, hein. Et puis après l'administration coloniale, il a établi le quartier européen, là où vous aviez toutes les familles britanniques, tous les Européens, les belles maisons, les beaux bungalows autour du Padang. Le Padang, qu'est-ce que c'est? C'est cette étendue qu'on appelle le champ ouvert, hein, en malais, là où les Anglais jouent au cricket, hein. Et puis après ça, après le quartier colonial, eh bien, il a installé le quartier de Kampong Glam. Et qu'est-ce que c'est ce quartier de Kampong Glam? En fait, c'est le quartier malais. C'est là où il va installer le sultan. Il va installer le sultan avec un palais, istana, ça on dit en malais. Et puis, il va aussi donner un territoire pour construire la mosquée du sultan. Et donc, ce quartier s'appelle Kampong Glam. Kampong en malais, ça veut dire village. Et Glam, en fait, ça vient d'un arbre, qui est un arbre qui se trouve dans ce quartier, qui s'appelle l'arbre du Guélam. Et qui est un arbre que j'aime beaucoup, parce que c'est un arbre qui a une écorce qui est étanche, donc qui permettait à l'époque de réparer les bateaux. Singapour, c'est un port, donc les marins viennent. D'accord? Et puis, c'est un arbre qui a un bois qui est extrêmement dur, donc qui va se consumer très, 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 très lentement. Pour faire les curry, pour faire les rendang. Vous savez, les rendang, c'est ce bourguignon, sans alcool évidemment, local. Et puis cet arbre, qui est une famille de l'eucalyptus, il va avoir des feuilles, et après la distillation de ces feuilles, on va obtenir une huile, l'huile de cajuput, avec laquelle on va mettre sur ces piqûres de moustiques, qui va tout de suite calmer, mais aussi qu'on va mettre sur ses muscles, quand on a des muscles qui sont un peu tendus, serrés. Et puis, comme c'est de la famille de l'eucalyptus, qu'on va inhaler pour dégager les bronches. Et puis, on a aussi les Indiens. Les Indiens, ils avaient leur quartier qui était juste au-dessus du quartier chinois, Chinatown. Mais simplement, les Chinois, je vous ai dit, lors de notre première émission, à partir de 1850, vont devenir une population majoritaire. Et donc, ils vont repousser les Indiens. Et les Indiens vont se dire, il faut qu'on trouve un autre quartier. Alors, ils vont chercher, et ils vont se rendre compte que les Anglais ont mis leur hippodrome dans un certain quartier de Singapour. Ils se disent, si les Anglais ont l'hippodrome, ça veut dire qu'il y a les chevaux. Vous savez, les chevaux vont paître l'herbe. Et les Indiens, ils ont des vaches. Ils ont besoin du lait pour faire leur rituel hindou. Et donc, ils vont se dire, eh bien, puisque les Anglais sont là avec leurs chevaux, on va s'établir dans ce quartier. Ils vont s'établir dans ce quartier qui, aujourd'hui, s'appelle Little India. Donc, quand vous venez à Singapour, qu'est-ce que vous allez visiter? Eh bien, vous allez visiter le quartier colonial, avec ses beaux bâtiments de l'Empire britannique qui représente la reine Victoria. Vous savez, l'Empire britannique, là où le soleil ne se couchait jamais. Et puis, vous allez visiter Chinatown. Vous allez visiter Little India. Et puis vous allez visiter, évidemment, Kampong Glam.
Donc ça fait 4 ou 5 quartiers qui seront absolument inévitables à Singapour.
Absolument. Alors, vous allez les visiter et puis vous allez découvrir. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Eh bien, à Chinatown, c'est comme dans tous les Chinatown du monde. Vous savez, les Chinois, à chaque fois qu'ils se sont établis quelque part, ils ont recréé leur ville. Donc, on va avoir ce rouge qui est toujours présent, parce que le rouge, c'est la couleur du bonheur chez les Chinois. Vous allez avoir ces lanternes que vous allez retrouver. Vous allez avoir ces pharmacies, la pharmacopée chinoise, avec toutes ces herbes, toutes ces ingrédients un peu bizarres qui sentent très très fort. Vous allez retrouver les temples chinois avec ces déesses, avec le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme. Vous allez retrouver aussi ces bruits au moment de Chinese New Year. On entend le gong qui sonne. Ça, c'est quand vous êtes à Chinatown. Et puis, vous passez dans le quartier colonial. Alors là, c'est calme.
City Hall. Please mind the platform gap.
C'est majestueux. D'ailleurs, le quartier colonial est aujourd'hui devenu un quartier artistique. On ouvre dans très peu de temps cette magnifique National Gallery qui a été complètement refondue, qui était en fait l'ancien City Hall avec l'ancienne Cour suprême, et c'est un architecte français, j'aime bien dire cocorico, vive les Français, un architecte français, Jean-François Milou, qui a gagné le concours international pour la rénovation de cette National Gallery qui ouvre le 24 novembre de cette année, qui est le point focus de ce quartier maintenant. Alors évidemment, vous avez aussi le Asian Civilization Museum, vous avez aussi le National Museum, vous avez aussi le Singapore Art Museum, mais en regardant cette nouvelle National Gallery, on est impressionné par l'ampleur à la hauteur du développement de la Singapour économique. Et puis après, vous allez à Little India, et là vous allez avoir les épices, vous allez avoir ces odeurs, vous allez avoir ces temples hindous, vous allez avoir ces couleurs, vous allez avoir... on est en plein Deepavali, puisque nous allons célébrer le 10 novembre la fête de Deepavali, donc on y va le soir et vous avez toutes ces lumières. Deepavali, c'est la fête des lumières. Hein. C'est les lumières qui gagnent sur les ténèbres. Et puis après, vous allez à Kampong Glam. Et là, vous avez tout cet esprit, l'islam du sud-est asiatique. Hein. Très coloré, très, très, très magique, avec toutes ces femmes qui ont ces fichus de toutes les couleurs. Et puis vous avez tous ces quartiers. Donc, on boit le thé Alia. Alors, qu'est-ce que c'est le thé Alia? C'est un thé avec du lait sucré condensé, parfumé. Alia, c'est le gingembre en malais, parfumé au gingembre. Vous avez aussi toutes ces odeurs qui sont les odeurs des parfums à base d'huile, puisque vous savez que dans la religion de l'islam, on ne peut pas utiliser l'alcool. Voilà, c'est tout ça, Singapour. C'est tous ces mélanges de cultures, de religions, tous ces quartiers tellement différents.
C'est passionnant et c'est vrai que si je prends ma propre expérience, quand je suis venu la première fois à Singapour, c'était pour un week-end et j'ai fait tous ces quartiers comme tout le monde, et vous aussi quand vous allez venir à Singapour, tous ces quartiers, c'est inévitable. Et ce qui est très agréable, c'est qu'ils sont tous assez proches l'un de l'autre. Il vous faudra peut-être prendre le métro une fois ou deux, mais globalement vous pouvez le faire à pied et ça c'est vraiment très agréable. Et il y a effectivement toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, toutes ces odeurs différentes. Effectivement, passer de Chinatown à Little India, c'est deux mondes, hein, on est d'accord. Voyager en Chine, voyager en Inde, c'est pas la même chose. Et c'est pareil à Singapour. On a cette possibilité et cette chance de pouvoir passer d'une ambiance à l'autre assez facilement. Alors, Little India, moi, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose aussi de très intéressant. Alors, c'est pas l'Inde, soyons clairs, c'est pas, on n'est pas dans une rue indienne, mais il y a un moment dans la semaine particulier, et je sais pas si vous serez d'accord, mais je pense que c'est le meilleur moment pour y aller à Little India, c'est le dimanche, en fin de journée, hein, peut-être vers 17-18 heures, avant que le soleil se couche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe?
Alors, Oui, le développement économique de Singapour s'est passé grâce à la population de Singapour. Mais il a fallu aussi importer des travailleurs, puisqu'ils ont manqué de main-d'œuvre. Hein. Et donc, on a tout ce qu'on appelle les workers, c'est-à-dire ce sont des travailleurs qui viennent pour travailler sur les routes, qui viennent travailler dans les métiers de service, dans la restauration, qui viennent travailler dans les maisons, qui viennent travailler dans les hôtels. Voilà. Et toutes ces personnes, elles viennent, elles ont des contrats de 2 ans, elles viennent travailler ici. Et donc, vous avez tous ces hommes qui travaillent beaucoup dans la construction, sur les routes, qui vont se retrouver le dimanche soir, eh bien, à Little India. Et là, ça grouille de monde. Vous avez tout le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde. C'est incroyable. Et vous avez de la musique, vous avez de... une grande, grande animation, et puis surtout une foule, ouais. Une foule auquel on n'est pas habitué, une foule à laquelle on n'est pas habitué à Singapour. Et c'est ça qui est très, très, très sympathique.
Singapour est le bikhato shopping center, Mustafa Plaza, Shamne, Minimart est le bikhato Al Mustafa Restaurant est pour Kutege, après le Janatsi, Antonik Shurecha, au Obhinandan.
Oui, c'est vrai. Il faut vraiment, enfin moi c'est un conseil que je donne à tout le monde, et j'amène toujours les visiteurs qui viennent donc ici, je les emmène le dimanche soir en général à Little India et puis se faire une bonne bouffe, parce que là-bas on mange bien. Justement, parlons un peu gastronomie, Singapour est réputé pour être un endroit où on mange très bien, c'est un endroit où les restaurants pullulent, c'est un endroit aussi où on a ce concept de food court, qui donc sont ces espaces énormes, souvent dans les shopping malls, mais aussi parfois en extérieur, avec tous ces petits stands de nourriture asiatique, parfois aussi occidentale. Expliquez-nous un petit peu le food court et peut-être un ou deux food courts que vous aimez personnellement.
Alors le food court, en fait, c'est une création qui est très récente. En fait, le food court date plus ou moins de l'indépendance de Singapour, donc c'est 50 ans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à Singapour, on a, d'un point de vue architectural, on a toujours ce qu'on appelle le Five Foot Way. Qu'est-ce que c'est le Five Foot Way ? C'est une idée de Raffles. Donc avec cette architecture chinoise de la shop house, shop au rez-de-chaussée pour faire du business, et house, la maison, au-dessus pour habiter, donc ce concept architectural qui est venu donc avec les Chinois, qui s'est développé dans tout Singapour, parce que vous le retrouvez à Little India, la Shop House, vous la retrouvez à Little India, vous la retrouvez à Kampong Glam, vous la retrouvez partout, hein, parce qu'elle est tellement pratique. Eh bien, Raffles a décidé qu'il fallait mettre devant chaque Shop House ce petit espace. Le foot, c'est une unité de mesure anglaise, et donc c'est 5 pieds, et donc l'espace de ces 5 pieds pour se protéger du soleil, mais aussi pour se protéger de la pluie. Et donc, dans cet espace, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez des petits métiers qui vont se développer. Le barbier, l'écrivain public, vous avez la personne qui va prêter de l'argent, et puis surtout la personne qui va faire la nourriture, qui va faire à manger. Pourquoi ? Parce que tous ces hommes qui viennent travailler, je vous parle du 19e siècle, ils n'ont pas le temps de faire de la cuisine. Donc, ils vont acheter la nourriture toute faite. On est au 20e siècle, et on est en 1960, et là, on se rend compte qu'il y a tous ces marchands dans ces rues. Et donc, quelle est l'idée du gouvernement ? L'idée du gouvernement, c'est de regrouper, d'un point de vue hygiénique, tous ces marchands de nourriture dans un seul endroit. Et ça va être la naissance du food court. Alors, au départ, le food court sera dehors, avec des ventilateurs au-dessus de soi, quelquefois même sans ventilateur, mais on les regroupe dans un même espace. Et par extension, avec l'arrivée de l'air conditionné, eh bien, on va mettre ces food courts dans des bâtiments conditionné. Voilà. Alors, le food court est au singapourien ce que le café, bar, sport, PMU est au français. C'est-à-dire que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de leur culture. Et quel que soit le niveau social, de la personne la plus simple jusqu'à la personne la plus élevée socialement, on va déjeuner, on va dîner, on va se restaurer au food court. Et c'est très très amusant. Vous allez au food court de l'Opassat, là où il y a la cité, à côté de Raffles Place. Vous voyez tous ces hommes d'affaires qui arrivent avec leurs chemises blanches, leurs bretelles quand ce sont les traders. Vous avez avec leurs pantalons faits sur mesure, parce qu'ici on a les tailleurs, hein, tout à fait accessibles pour les costumes sur mesure, qui arrivent et qui vont déjeuner au food court. Alors oui, l'eau passate, c'est amusant, parce que l'eau passate, c'est cet ancien marché, une structure de fer forgé qui est ravissante, qui a été restaurée, qui a été déplacée d'ailleurs. C'est assez amusant, puisqu'il était sur Tellockhire Street, c'était un marché aux poissons d'ailleurs, et puis qui a été déplacé et qui est là où il est aujourd'hui, à Raffles Place. Hein. On va les voir à côté de beaucoup de touristes, puisque les touristes aiment beaucoup l'eau passate. Alors moi j'aime bien l'eau passate parce que la population est très mélangée. J'aime bien l'eau passate le soir, pourquoi ? Parce que la rue d'à côté va être fermée. Et là on va manger des satés. Vous savez les satés c'est ces petites brochettes de poulet, d'agneau avec la sauce cacahuète, très typique d'ici, qu'on va manger dans la rue le soir juste à côté de l'eau passate. Quels sont mes food court favoris ? Alors j'aime beaucoup Maxwell Road, qui est aussi un très ancien food court où vous avez toutes les nourritures. Alors ça, c'est à côté de Chinatown, juste à côté de Chinatown. Et il paraît qu'il y a là le meilleur chicken rice. Alors, qu'est-ce que c'est le chicken rice ? Eh bien, le chicken rice est au singapourien ce que la poule au pot est au français. C'est-à-dire que c'est un poulet qui est cuit dans un bouillon et qu'on va vous servir avec du riz qui est cuit dans ce même bouillon avec une sauce au gingembre, une sauce noire très épaisse, hein, un peu sucrée et puis évidemment du chili parce qu'à Singapour, on rajoute du chili partout. D'où vient-il le chicken rice ? En fait, il vient de l'île de Annan. Annanese chicken rice, hein, donc c'est le sud de l'Inde, et en fait en se déplaçant, parce que si vous allez sur l'île de Annan et que vous goûtez le chicken rice, ça n'a rien à voir avec celui de Singapour. En se déplaçant, eh bien, il a changé, et donc il s'est, je ne peux pas dire amélioré, parce qu'il est très bon le chicken rice de l'île de Annan, mais on lui a rajouté ces saveurs qui sont le gingembre, cette sauce noire qui s'appelle le ketchup. En fait, rien à voir avec le tomato ketchup, hein, mais ce ketchup qui est une sauce noire très très noire. Et puis le chili.
Hello, can I have a chicken rice number 4, please?
On peut dire, je pense que c'est le plat national hein, à Singapour, le chicken rice. Il y en a d'autres quand même. Il y a le crabe dans la sauce chili, toujours piment ou sauce au poivre, qui fait aussi partie des découvertes culinaires de Singapour. Alors oui, je pense qu'il faudra y aller au food court. De toute façon, je pense que c'est inévitable quand on est à Singapour, qu'on soit dehors et qu'on veuille se restaurer entre deux visites ou qu'on aille dans les centres commerciaux qui sont ici par dizaines. On peut pas les éviter. Donc voilà pour les quartiers principaux de Singapour, mais il y a quand même en périphérie, un peu plus à l'écart, d'autres quartiers aussi, moins sous les projecteurs puisque moins peut-être historiques, quoique, mais il y a d'autres endroits qui peuvent être d'intérêt à Singapour. Est-ce que vous avez en tête deux ou trois endroits qui pourraient être intéressants de découvrir, en dehors du quartier chinois, du quartier indien, etc.
Alors, le quartier hip, hip, hip. Vogue écrivait que s'il y avait un endroit où il fallait aller à Singapour, c'est Tiong Bahru. Alors, Tiong Bahru, en fait, c'est la même chose. De nouveau, comme on a parlé dans l'émission précédente, La Belle Endormie. Tiong Bahru, c'est un quartier historique aussi, puisque c'est un quartier qui a été développé dans les années 30, alors avec une architecture magnifique des années 30, qui a été développé pour désengorger Chinatown. Donc, qui se trouve un peu au nord de Chinatown, mais en fait, qui n'aura jamais cette vocation sociale qu'on lui destinait. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand les Anglais vont le construire, en 1930, hein, on est la colonie anglaise, hein, ils vont dépenser beaucoup d'argent, et donc, du coup, ça va jamais mettre des logements sociaux comme il était prévu. Et donc, c'est un endroit où les Chinois de l'époque, alors vous savez que les Chinois de l'époque, ils avaient la femme officielle, ils avaient la deuxième femme, ils avaient les concubines et puis ils avaient les maîtresses. Alors, c'est un endroit où on va mettre les concubines et les maîtresses. Et puis, c'est un endroit aussi où on va mettre, où vont s'installer spontanément les artistes, les chanteuses de l'opéra chinois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parc d'attractions qui n'est pas tellement loin, qui va devenir un grand shopping mall par la suite. Mais voilà, on aura tout ce côté très artistique. Et puis, donc ça, c'est la première vague de Tiong Bahru. Première vague de construction, très années 30. Ensuite, il y a une deuxième vague qui correspond à la partie qui est en fer à cheval et qui va s'établir juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là où il y aura les premiers abris militaires de Singapour. On a peur que Singapour soit bombardé puisque la Deuxième Guerre mondiale sonne au loin. Et donc, on va créer ces premiers abris là dans cette deuxième partie. Et puis, la troisième partie de Tiong Bahru, c'est la partie qui va être construite après la Seconde Guerre mondiale, très inspiré de Le Corbusier, donc avec ses lignes qui sont très simples et très droites, de ce quartier. Ce quartier va avoir une très très belle vie jusqu'aux années 70. Pourquoi ? Bah parce que à partir des années 60, on développe ces HDB dont on a déjà parlé dans l'émission précédente. Et donc, les Singapouriens vont avoir envie d'aller dans ces nouveaux bâtiments où il y a de l'eau à tous les étages, où il y a de l'électricité à tous les étages, où on peut voir même, on a les ventilateurs électriques, et puis on peut même avoir l'air climatisé. Donc, Tiong Bahru va tomber en décrépitude. Voilà. Jusqu'en 2012, où là, vous avez un groupe de personnes avec une vision. Vous avez une femme qui s'appelle Cynthia Choi, qui va décider d'ouvrir un restaurant qui s'appelle Open Door Policy. Vous avez un café qui s'appelle 40 Hands, qui va se développer. Et puis, vous avez une librairie. Et eux trois, ils vont redonner l'essor à Tiong Bahru. Et puis après, vous avez toutes ces personnes qui vont se dire « Mais on a envie d'habiter dans des petits immeubles de 3 étages, un peu typiques, assez historiques. » Et donc, toute cette jeune génération un peu branchée va investir ce quartier. Il va y avoir un redéveloppement de Tiong Bahru. Et donc, vous allez avoir à la fois cette population un peu endormie, très traditionnelle, dans ces petits marchands de nourriture. Et puis, vous avez ces jeunes dynamiques, on pourrait même dire un peu bobos, qui vont venir là. Et donc, ce quartier est assez amusant parce que se côtoient en permanence ces deux populations.
Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est devenu, effectivement, aujourd'hui, le quartier un peu à la mode. Les gens aiment bien aller vivre là-bas. Il y a beaucoup de petites boutiques, il y a beaucoup de petits cafés. Très agréable. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers ? Alors bon, moi, j'en ai pas mal en tête, mais je vous demande à vous. Est-ce que vous avez d'autres quartiers qui résonnent particulièrement en vous et où vous aimez bien vous promener ?
Alors, oui. Alors, moi, il y a un quartier que j'aime beaucoup, c'est Geylang. Alors, Geylang, on dit c'est le Red District, on dit tellement de choses. Mais Geylang, je l'aime beaucoup parce qu'il est resté très authentique pour moi. C'est un endroit, d'abord, qui vit 24 heures sur 24. On peut se restaurer en permanence de la meilleure nourriture possible. Et puis, c'est vivant. Vous avez encore ces anciennes petites maisons. C'est un quartier qui bat. Moi, j'aime beaucoup les quartiers bas à Singapour. C'est un quartier... alors oui, vous avez ces dames, mais écoutez, sincèrement, il n'y a pas de danger. Vous savez, la prostitution à Singapour, elle est très organisée. Hein, la prostitution est autorisée. Donc, voilà, elles sont là, elles font le même métier qui est vieux comme le monde et elles n'embêtent strictement personne. Et puis, vous avez... C'est un brassage. Vous avez beaucoup de jeunes Français qui habitent à Geylang aussi. Vous avez beaucoup de jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'il y a le métro. Hein, il y a le MRT qui vous emmène directement à la City. Et c'est bien pratique. Et puis, vous avez toutes ces habitations qui sont très sympathiques. Et puis, c'est un quartier qui est resté très authentique. Peut-être, Romain, vous, avez-vous d'autres quartiers que vous aimez ?
Ouais, déjà je vais rebondir, je fais partie de ces Français de Geylang, donc je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est un quartier qui est intéressant et qui est populaire. Je pense que c'est comme ça que je le décris souvent, c'est un quartier populaire. Quand on s'y rend le week-end, effectivement, il y a une ambiance qui est différente. C'est un Singapour un peu différent. Tous ces petits coins de rue avec ces petits restaurants qui font du chicken rice et qui font d'autres choses. La cuisine là-bas, majoritaire, est chinoise. Et c'est vrai qu'il faut y aller, je pense, pour sortir un petit peu aussi du béton et puis du centre Raffles Place, qui est admirable à visiter. C'est très sympa d'aller, on l'a pas encore parlé, mais d'aller boire un verre à One Altitude. Le bar qui est à 280 mètres d'altitude, à ciel ouvert, c'est magnifique, mais... C'est bien aussi d'aller voir la vie très locale des populations un peu plus modestes. C'est vrai que Geylang est un peu plus modeste, mais vraiment, oui, c'est une visite intéressante. Et puis moi, ce que j'aimerais mentionner, c'est deux choses. La première, c'est East Coast, qui est donc la côte côté est de Singapour, qui part de l'aéroport et puis qui va vers jusqu'au centre, et qui est vraiment un endroit sympathique puisque ça a été aménagé avec une énorme piste cyclable tout le long. Donc le week-end, ça peut être un peu dangereux d'ailleurs d'y aller parce que les gens roulent un petit peu dans tous les sens, en vélo, en roller, etc. Mais c'est très sympa parce qu'il y a quelque chose d'assez unique, c'est cette vue sur la mer avec tous ces cargos qui sont parqués comme ça pendant quelques temps près de Singapour. Et c'est une vue vraiment impressionnante. Et je crois que de toute façon, on est obligé de la voir quand on atterrit, que ce soit de la journée où on les voit très bien ou de nuit où on voit que les lumières. Mais on est obligé de voir tous ces bateaux par centaines, c'est gigantesque. Et voilà, c'est une balade sympathique. Alors la mer, elle n'est pas forcément belle, la couleur de la mer n'est pas forcément belle, et puis les petites plages qu'ils ont créées ne sont pas forcément paradisiaques, on n'est pas en Thaïlande, on n'est pas en Indonésie. Mais ça fait partie, je pense, de choses intéressantes à voir à Singapour et de longer, voilà, cette East Coast, soit à pied, soit en vélo, soit en roller. La deuxième chose que moi je voulais rajouter, c'était en fait le début de Chinatown entre Raffles Place et Chinatown, tout ce quartier de Club Street, de Duxton Hill, avec ses shop houses chinoises qui ont été bien restaurées, qui sont très très jolies, qui souvent maintenant sont des salons de spa, qui sont des galeries d'art ou qui sont des bureaux de petites start-up. Mais vraiment très sympa puisque ce sont les habitations originales des Chinois immigrants qui sont arrivés ici. Et ce qui est très sympa, c'est d'y aller notamment le soir parce qu'il y a une effervescence avec tous ces restaurants, tous ces bars. Et il y a des points de vue, je pense, assez uniques à Singapour puisqu'on voit en un seul coup d'œil ces maisons très basses qui doivent faire peut-être 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres de haut. Et au fond, on voit toute la skyline, donc toutes les tours modernes de Singapour qui, pour la plupart, dépassent les 200 mètres. Et voilà, moi je pense que c'est un endroit très sympa puisque on a d'un seul coup d'œil l'ancien, le moderne, et vraiment on voit un panorama voilà à 360 qui est assez unique. Heureusement, je pense que Singapour arrive encore à conserver ses quartiers heritage, comme on dit, donc ce patrimoine. Malheureusement, parfois on en voit des petits bouts qui sont un petit peu grignotés par-ci par-là pour mettre une nouvelle tour, pour mettre un nouvel hôtel ou un nouveau centre commercial. Mais ça fait partie des coins, je pense, très plaisants. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le soir en général, en semaine ou le week-end encore plus, il y a tous ces expats, tous ces gens étrangers ou singapouriens qui viennent juste se délecter et consommer voilà, dans des restaurants européens, dans des restaurants asiatiques. Mais voilà, c'est vraiment un coin intéressant, selon moi aussi, à découvrir lors d'un passage à Singapour. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça?
Alors oui, Romain, je suis entièrement d'accord. Alors je rajouterais, puisqu'on est à East Coast, un quartier que j'aime beaucoup, c'est Katong. Katong, c'est un quartier historique aussi. C'était l'endroit où, en fait, au début du 20e, les personnes qui habitaient downtown, dans la ville, allaient prendre l'air. On allait à Katong pour respirer, pour aller à la plage, pour aller à la mer. Et donc aujourd'hui, c'est un quartier, je dirais que c'est une périphérie, tout simplement, de la ville centrale de Singapour. On habite à Katong, on va travailler de Katong jusqu'à la City. Très facilement, il y a les bus, il y a le métro aussi. Mais c'est resté un quartier où vous retrouvez ces petites maisons. On parlait de Beach Road tout à l'heure. Eh bien, vous avez la rue qui s'appelle Sea View. La mer était là, maintenant elle a été repoussée un petit peu plus, mais voilà, il y a encore ces petites maisons qui étaient des petites maisons à la mer, où aujourd'hui des personnes habitent, qui sont devenues des habitations à temps complet. Et dans ce quartier, vous avez encore tout ce côté historique dans lequel les personnes vivent. Elles vivent dans des maisons historiques, ce ne sont pas des musées, ce sont des endroits où on vit. Et donc, moi, j'aime beaucoup Katong pour se promener. Puis, au détour d'une rue, vous allez voir une magnifique villa qui date du début du XXe siècle ou des années 30, complètement 30. Voilà, et ça, j'aime beaucoup. C'est mon côté un peu caché de Singapour où, c'est vrai, quand on vient en touriste, on ne va pas forcément.
Non, je suis entièrement d'accord. C'est pas très loin de Geylang, d'ailleurs. Il m'arrive souvent d'y aller à pied. En 20 minutes, on y est. Et c'est vrai que c'est un quartier qui prend, je pense, beaucoup de valeur et qui est en train de se développer énormément. Chaque fois que j'y vais, je vois un nouveau bar, un nouveau restaurant. Il y a une vraie vie locale. Il y a une vraie ambiance particulière. Le soir, notamment, qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en allant vers Tanjung Katong, donc ce quartier, il y a des rues assez connues à Singapour puisque ce sont les rues, parmi les rues où il y a des très grosses maisons de riches Singapouriens qui ont fait fortune et qui ont eu un gros succès à Singapour. Et en général, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, ils y vont avec des grosses maisons bien matuvues, voilà, bien visibles, de goût parfois un peu discutable. Voilà, les goûts se discutent pas, mais je pense que ça fait partie des choses intéressantes à faire et qui sont pas, je crois, dans les itinéraires classiques de Singapour. Il y a quelques rues, il y a Crescent Road par exemple, et il y en a une qui s'appelle Wilkinson Road que j'ai découvert finalement assez tard. J'ai vécu pas loin de cette rue pendant des années, mais il n'y a fait qu'un an ou deux que j'ai découvert cette rue. Il y a une maison dans cette rue qui s'appelle Lakshmi Nivas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais voilà, je ne veux pas en dire plus. Je veux garder un petit peu de surprise pour les auditeurs qui se baladeront à Singapour et qui auront le temps et l'envie, et je les conseille vraiment, d'aller dans cette rue. Voilà, il y a une maison qui s'appelle Lakshmi Nivas. Donc c'est une maison, c'est pas un musée, on peut pas y rentrer. Mais juste pour cette maison, je pense que ça vaut le coup d'aller se balader et aussi de voir le nombre de Lamborghini orange ou de voitures de luxe absolument incroyables qui est dans cette rue. Ça fait partie des choses, moi, que je trouve assez marquantes à Singapour. Il y a peu d'endroits comme ça où on peut se balader et voir autant de grosses voitures de luxe parquées, parfois coincées sur les trottoirs parce qu'ils n'ont pas trop la place de les garer comme il faut. Donc voilà, ça fait partie des curiosités.
Alors, puisqu'on en est dans ces curiosités, je vais en rajouter une autre. Le 2 Ridley Park. Le 2 Ridley Park, c'est un monsieur qui a fait fortune, monsieur chinois, qui a fait fortune dans les boulettes de poisson qu'on met dans les soupes. Vous savez, les soupes, on mange beaucoup de soupes dans le sud-est asiatique. Et lui, ce monsieur, il a 48 Ferrari. Quand vous passez devant sa maison, d'ailleurs, il a deux maisons. Après l'esthétisme, chacun son mauvais goût, j'oserais dire. Mais il expose en permanence entre, on va dire, entre 8 à 10 Ferrari de sa collection. Donc il a un garage en dessous, il les expose. Et il a fait une clôture de manière à ce qu'on puisse voir ses Ferrari. Et donc, voilà. Alors, quand mes enfants étaient petits, au lieu d'aller au salon de l'automobile, eh bien, nous allions voir les Ferrari de ce monsieur. Alors, puisque vous parliez de cette maison de ce monsieur indien, puisque Lakshmi, c'est une déesse indienne, eh bien, moi, je vous parle de ce monsieur chinois sur Ridley Park, parce que là aussi, vous avez des maisons assez étonnantes. Mais vous avez aussi quelque chose de magnifique que j'aime beaucoup à Singapour. Dans tout ce quartier colonial, on va dire, mais plus en dehors, vous avez ces maisons black and white. Alors, ces maisons black and white, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maisons qui sont assez importantes en taille, mais ce sont des maisons qui étaient des maisons des employés de l'empire colonial. Alors, pourquoi black and white? Eh bien, parce qu'elles sont blanches et noires. Et donc, noire et blanche, pardon. Donc, noire et blanche. Et donc, elles ont été construites avec des matériaux qui sont très simples. C'est du bois, c'est du ciment, c'est du carrelage. Mais elles sont souvent dans des grands jardins de nature typiquement de jungle équatoriale. Il y a encore des grands jardins autour de ces maisons. Et puis, eh ben, vous imaginez un peu comment était l'empire colonial de cette époque. Alors, vous prenez Ridley Park. Vous remontez Ridley Park, et puis en remontant Ridley Park, vous allez atterrir à Dempsey, le quartier de Dempsey, où là, vous allez avoir plein de restaurants dans des anciens baraquements de police. Parce que c'est ça, Singapour aussi. On réutilise des endroits pour en faire d'autres endroits. Et là où c'était des baraquements de police, et bien maintenant, c'est des endroits où on sort, où on va dîner.
Effectivement, il y a aussi une rue qui s'appelle Mount Pleasant Road, qui fait partie des rues classées donc patrimoine de Singapour, où il y a pas mal de ces maisons, un peu cachées, il faut s'avancer un petit peu, parce que souvent, voilà, il y a beaucoup de végétation autour, comme vous l'avez dit, c'est des jardins souvent autour, donc mais on peut en apercevoir. Et ça me permet de faire une transition sur la partie nature de Singapour, puisque là, on est dans le centre, enfin au milieu vraiment de l'île, près d'un endroit qui s'appelle le MacRitchie Réservoir. Et je voulais faire une transition parce que c'est vrai que quand on parle de Singapour et quand les médias en parlent, souvent ils disent c'est la ville jardin. Et on se rend compte dès qu'on arrive, dès qu'on prend cette autoroute qui va de l'aéroport et qui nous amène dans le centre, on est bordé par ces arbres magnifiques qui surplombent l'autoroute. Et puis après, on commence à voir des parcs un peu partout, des jolies pistes cyclables. Et puis il y a un vrai poumon vert à Singapour, il y a une vraie zone de jungle. Et il y a ce fameux Botanic Gardens. Donc expliquez-nous un petit peu les différents endroits où on peut vraiment saisir ce côté nature de Singapour.
Alors, vous savez, quand on parle de Singapour aujourd'hui, on dit que c'est une île verte. Quand vous prenez l'avion et que vous allez atterrir à Singapour, regardez par le hublot, parce que vous allez voir que la caractéristique de cette île, c'est qu'elle est verte. Elle n'a pas toujours été comme ça. En fait, en 1960, elle était marron. On parlait de l'île marron. Et donc c'est tout ce développement de ce pays, toutes ces politiques de verdure qui ont été développées par M. Lee Kuan Yew et son gouvernement qui en ont fait une île verte. Alors on parle de cité-jardin. On a parlé de cité-jardin, donc il y avait cette politique de planter des arbres. À chaque occasion, un anniversaire, un homme politique qui passait, une visite officielle, on plantait des arbres. Et puis, en plus, on voulait que l'île soit propre. En plus d'être verte, on voulait qu'elle soit propre. Et donc, il y a eu des incitations pour rendre les populations plus propres, mais ça ne marchait pas. Alors, il y a une politique qui s'est appelée la politique de l'amende. Et donc, de l'amende, c'est qu'à chaque fois que vous jetiez un papier par terre, eh bien, vous aviez une amende de $500, ce qui était énorme à l'époque. Et c'est comme ça que Singapour est devenu « the fine city ». Mais cependant, ça a permis à Singapour de devenir une ville propre. Alors, revenons sur le vert. Alors, Singapour est une île verte, mais surtout Singapour aujourd'hui, après avoir été une cité-jardin, c'est devenu la ville dans un jardin. Pourquoi ? Parce que nous avons plus de 60% de verdure dans Singapour, ce qui est juste énorme. Alors nous avons 17 réservoirs d'eau, et à chaque fois que nous avons un réservoir d'eau, nous avons un parc autour. Et pour réunir tous ces réservoirs et tous ces parcs, nous avons des parcs connecteurs, qui sont, imaginez-vous, des pistes cyclables. Et on va pouvoir, à partir de 2030, pouvoir tourner tout autour de l'île, alors je ne dis pas forcément à pied, mais en tout cas à vélo, avec tous ces parcs connecteurs. Et déjà aujourd'hui, on peut réunir, on peut faire du vélo à Singapour, on peut rouler pendant des kilomètres sans s'arrêter grâce à ces parcs connecteurs. Mention spéciale pour le jardin botanique. Vous savez, Romain, qu'il a été listé depuis juillet dernier sur la liste des sites de l'UNESCO. C'est le troisième jardin qui est cité. Il y a un jardin en Italie, il y a Kew Garden, et puis il y a le jardin botanique. Alors j'aime beaucoup faire le pont entre Singapour et la France. Vous savez que cette année aussi, la région Bourgogne a été listée à l'UNESCO. Alors je dis, il faut prendre son verre de vin de Bourgogne et aller le boire dans le jardin botanique pour célébrer la France et Singapour. Alors ce jardin, c'est une merveille. Vous devez... Mais vraiment, vous devez, quand vous venez à Singapour, aller le visiter. D'abord, c'est un lieu historique. Il a été créé dans les années 1883. C'est un lieu où vous avez toutes les sortes d'arbres que vous pouvez trouver dans le sud-est asiatique, mais même au-delà du sud-est asiatique. Parce que vous savez, les Anglais amenaient les arbres dans tous ces jardins pour voir comment la végétation évoluait. C'est aussi un endroit historique, puisque c'est là que M. Lee Kuan Yew a lancé sa politique culturelle. C'est là qu'il a réuni plusieurs fois les Singapouriens pour leur parler. C'est aussi un endroit où on proposed, c'est-à-dire qu'il y a un arbre. Cet arbre, il s'appelle le tambusu. Et donc, sous le tambusu, c'est aussi l'arbre qu'on appelle le $5 note tree, parce qu'on l'a sur nos billets de $5, vous savez, les billets verts, regardez un billet vert, vous avez le tambusu, l'arbre du tambusu dessus. Et c'est là que les jeunes hommes demandaient les mains des jeunes filles pour pouvoir se marier. Donc il y a tout un ensemble de choses dans ce jardin. Et puis ce jardin, en fait, c'est une succession de jardins. Donc quand vous allez au jardin botanique, vous allez avoir le jardin des gingembre, vous allez voir le jardin Healing Garden, celui qui soigne, et puis vous avez évidemment le jardin des orchidées, qui est un endroit extraordinaire. C'est un endroit où vous pouvez retrouver plus de 2000 différentes espèces d'orchidées. Et c'est une merveille. C'est une merveille parce que vous avez des jardiniers qui travaillent en permanence dans ce jardin pour le rendre toujours plus beau pour les personnes qui viennent le visiter.
Je crois que c'est d'ailleurs unique au monde, d'avoir autant d'orchidées en si peu, enfin dans un espace si réduit, et autant de variétés, je crois que c'est unique.
Exactement, c'est un endroit qui est juste unique au monde. Mais ce jardin botanique, c'est pas uniquement un endroit où vous allez en touriste. Tout à chacun va le matin pour y courir. C'est un jardin qui est ouvert à partir de 5h du matin jusqu'à minuit. Et donc, si vous y allez, vous voyez le matin les Chinois qui vont prêter. Pratiquer leur qigong, vous avez les gens qui jouent avec le, enfin qui font l'art du sabre, vous avez les gens qui dansent, vous avez les gens qui marchent, vous avez les gens qui courent, vous avez après les touristes qui arrivent à partir de 9h, vous avez les enfants qui viennent et puis les mamans avec les poussettes. En fait, c'est un jardin qui est absolument extraordinaire parce qu'il vit à toute heure de la journée.
Non, c'est vrai, c'est un endroit absolument à découvrir. Bien y passer 2-3 heures, sans problème. On peut pas s'ennuyer là-bas. Et puis c'est assez magnifique et ça coupe totalement du reste de la ville. Et pourtant, c'est juste à côté d'un endroit dont on n'a pas encore parlé. Mais quand même, on est obligé. En plus, c'est à 2 pas d'ici. C'est Orchard Road. Donc qu'est-ce que c'est Orchard Road?
Alors, Orchard Road est à Singapour ce que Fifth Avenue est à New York. C'est-à-dire la rue commerciale. Alors Orchard Road, jusqu'aux années 1970, c'était rien. C'était un petit verger, une route en terre battue, voilà. Et puis à partir de 1970, il y a eu un véritable développement d'Orchard Road. Parmi les deux premiers hôtels qui se sont développés sur Orchard Road, vous avez l'hôtel Mandarin, et puis vous avez l'hôtel Hilton. Et puis vous avez aussi le super, le grand magasin qui s'appelle le Tang, le magasin Tang. Et voilà. Et à partir de ces trois endroits, vous allez cette rue qui va se développer. Aujourd'hui, Orchard Road, c'est des malls, une succession de malls avec les boutiques les plus extraordinaires. Toutes les grandes maisons du monde entier se succèdent dans ces malls. On peut passer la journée à faire du shopping sur Orchard Road. On peut aussi passer la journée en sous-sol d'Orchard Road, puisque vous avez une Orchard Road qui est au niveau de la rue, vous avez une Orchard Road qui est dans les étages de tous ces malls, et puis vous avez une Orchard Road qui est souterraine. Donc on peut passer une journée entière sans voir le jour dans les magasins d'Orchard Road si on aime le shopping. Et là, on va trouver tout, 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 et plus que tout.
Ouais, non, ça c'est le paradis du shopping. On dit parfois c'est le Champs-Élysées de Singapour. On peut aussi faire cette comparaison. C'est vrai qu'il y a des arbres tout le long. Et ici, il y a un conseil à donner, c'est de ne pas rester trop longtemps sous les arbres, parce qu'il y a une quantité d'oiseaux qui, voilà, qui grouillent. Il y a un bruit d'ailleurs dans cette rue, dans cette Orchard Road, qui est assez incroyable. Et ces oiseaux, bon, bah, faut faire attention parce qu'ils sont en grande quantité au-dessus de vos têtes et il peut y avoir des petits problèmes. Voilà. Est-ce que, pour finir sur les lieux d'intérêt à Singapour, vous auriez vraiment des vrais coups de cœur, des petits secrets? Alors, je vais pas vous demander de livrer tous vos secrets, mais peut-être des petits coups de cœur dont on n'aurait pas parlé, des endroits ou des petites expériences à vivre que vous aimeriez partager.
Alors, oui. Alors, vous l'avez dit, Romain, j'habite dans une shophouse. Alors, je voudrais recommander aux auditeurs, promenez-vous dans les quartiers où il y a encore des shophouses. Alors, on est sur Emerald Hill. Emerald Hill, c'est à deux pas d'Orchard Road. C'est un havre de paix. Orchard Road est grouillante. Et justement, vous avez parlé de ces oiseaux qui, à partir du 6 heures du soir, font un bruit incroyable. Et puis, ben, vous remontez la rue, vous voyez toutes ces maisons colorées, ravissantes. Voilà. Il y a un autre quartier que j'adore, c'est le quartier de Blair Road, avec encore ces shophouses qui sont magnifiques, restaurées magnifiquement, au pied d'un grand bâtiment dont on n'a pas parlé, qui s'appelle le Pinnacle, Pinnacle at Duxton, qui est un endroit que je recommande aux auditeurs d'aller visiter. C'est un endroit de HDB, ce sont des logements sociaux, mais qui permettent à 100 personnes extérieures aux habitations de monter sur les toits chaque jour, moyennant $5 que vous payez un petit monsieur dans son abri avant de prendre l'ascenseur, et vous montez tout en haut de ce bâtiment et vous passez par des passerelles le long de ces 7 tours. C'est absolument incroyable. Il faut le faire en quittant justement Blair Road, parce que vous passez de ces shophouses traditionnelles à ces bâtiments hyper hauts, et c'est vraiment tout ce contraste dont vous avez parlé qui fait la Singapour d'aujourd'hui.
Eh bien, merci Ariane. Je pense qu'on a compris qu'on pourrait en parler pendant 2 heures encore de Singapour, mais il va falloir s'arrêter là, malheureusement. Et puis, peut-être finir sur une note plus pratique, sur des conseils aux visiteurs qui viendront à Singapour. Alors bon, au niveau de la durée du séjour, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Il faut consacrer au moins 3 jours, je pense, à Singapour pour voir l'essentiel. Mais on peut très bien y passer 4, 5, 6 jours sans problème et pas s'ennuyer du tout. On n'a pas parlé de tout le côté aussi divertissement qui est assez développé à Singapour, qui n'est pas forcément intéressant à détailler ici, mais de l'île de Sentosa, qui est une île avec un parc d'attractions, avec beaucoup de choses à faire. Mais au niveau hébergement, au niveau hôtel, est-ce que vous auriez un petit secret, un petit conseil à donner?
Alors, j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup l'architecture. Nous avons un hôtel qui s'appelle le Parc Royal sur Pickering, qui est un hôtel pour moi extraordinaire, qui a été créé par un architecte qui s'appelle Voa, et donc qui est un architecte singapourien. Et c'est une merveille, puisque c'est un mélange de bois, de béton, de verre, et quand je dis de verre, c'est le verre de glace, le verre, hein, mais aussi de verdure. Et il y a tous les étages de ce bâtiment, vous avez cette verdure luxuriante qui a été réintégrée dans le béton, et je trouve ça extraordinaire. Alors c'est un hôtel, bon, c'est un hôtel 4 étoiles, je suis d'accord, hein, mais ça vaut la peine d'y aller passer une nuit, deux nuits, trois nuits. Pour moi, Romain, le séjour idéal à Singapour, c'est 3 nuits, 4 jours. Et là, vous arrivez à couvrir déjà beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Mais vous avez beaucoup, beaucoup d'autres hôtels. C'est juste mon petit coup de cœur. J'y étais encore ce week-end parce que je suis allée voir une amie à qui j'avais recommandé d'y aller. Et franchement, aller à cette piscine avec ses lanternes et puis cette verdure tout autour de soi, c'est merveilleux.
Voilà, et puis si on parle de piscine, on peut aussi, pour ceux qui veulent tenter l'expérience, parler de la piscine, la Infinity Pool, la piscine suspendue donc en haut de Marina Bay Sands, sur cette passerelle suspendue en haut des trois tours. Alors sachez qu'il faut dormir à l'hôtel pour se baigner dans la piscine, donc voilà, ça fait partie des choses à savoir. Et heureusement quelque part, parce que sinon ce serait totalement bondé, c'est déjà pas mal bondé, mais bon, l'avantage c'est que vous aurez la photo de vous avec la Skylake de Singapour en contrebas, et puis pas de limite, pas de béton entre les deux, juste l'eau qui coule comme ça, comme si l'eau coulait dans la ville. Ça fait partie un petit peu aussi des fantasmes de Singapour. Et ben merci beaucoup Ariane, voilà, encore une fois, je pense qu'on peut en parler encore pendant des heures, on a certainement oublié des choses, mais bon, maintenant je pense qu'il faut laisser aux gens aussi la découverte, et puis laisser aux gens la possibilité de découvrir des choses dont on n'a pas parlé, des nouvelles expériences. Venez à Singapour, moi, toutes les personnes que j'ai fait venir ici sont reparties conquises. Pensaient qu'il y avait moins à faire, moins à voir, et se sont dit « Oh, bah, j'aurais dû rester plus longtemps, oh, bah, je reviendrai l'année prochaine », parce qu'ils savent très bien qu'ils auront d'autres choses à faire, d'autres choses à voir. Et ça, je pense que c'est assez fascinant, et au rythme où Singapour évolue, au rythme où les nouveaux bâtiments se construisent, où les nouvelles aires s'organisent. Voilà, il y a toujours de quoi faire, il y a toujours de quoi voir. Et on a vu une bonne partie avec vous aujourd'hui, je vous remercie énormément. Et puis, bah, je vous laisse le mot de la fin pour conclure.
Eh bien, oui, venez à Singapour. Je suis donc guide touristique et j'accompagne pas mal de Français qui viennent visiter Singapour grâce à ma société qui s'appelle Singapour sur Seine. Et je dois dire qu'à chaque fois que ces personnes repartent, ils me disent « Écoutez Ariane, on s'imaginait pas qu'il y avait tellement à faire à Singapour. Ariane, on va revenir parce que Singapour a tellement à offrir qu'on ne se l'imagine pas. » J'aimerais terminer là-dessus, Romain.
Eh bien, merci beaucoup Ariane, et puis je vais mettre les coordonnées de Singapour sur Seine sur la page de l'épisode, donc sur lesroutesdelasie.com, pour qu'on puisse vous contacter pour les gens qui veulent le faire. Voilà, encore une fois, merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt Romain, et bon voyage.
Nous voilà au bout de ce double épisode sur Singapour, en compagnie d'Ariane Nabarro, que je remercie très chaleureusement pour avoir pris le temps de participer à l'émission et de partager sa passion sur Singapour à mon micro. J'espère que nos discussions sur l'histoire et le tourisme de Singapour vous auront plu, inspiré et surtout donné envie de venir visiter ce lieu si particulier en Asie, en route vers une autre destination asiatique, je n'en doute pas. Pour retrouver les différents noms de lieux évoqués dans l'émission, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur la page de l'épisode, sur lesroutesdelasie.com/34. Sur cette page, vous pourrez aussi trouver les coordonnées d'Ariane pour la contacter pour une éventuelle visite personnalisée de Singapour, si le cœur vous en dit. Comme je l'avais dit en introduction, cet épisode clôture la saison 2015 de Sur les routes de l'Asie. Une année, c'est vrai, un peu moins riche en épisodes, avant tout parce que le temps que j'ai pu consacrer à l'émission cette année a été assez réduit. Mais en 2016, je vais m'y remettre de plus belle et redoubler d'efforts pour vous proposer plus d'épisodes. C'est vrai que je suis à la fois fier d'avoir déjà pu vous faire découvrir via mes invités toutes ces contrées dans ces 34 épisodes. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce n'est que le début et que l'on a effleuré qu'une petite partie de l'Asie et qu'il en reste encore beaucoup, beaucoup d'autres à découvrir. Ça fait bien sûr partie des ambitions pour l'année prochaine et pour m'aider à continuer de développer le podcast en visant votre satisfaction en tant qu'auditeur, j'ai mis en place un petit questionnaire en ligne qui vous prendra vraiment juste 2 minutes où je vous pose quelques questions sur ce que vous aimez beaucoup ou un peu moins dans l'émission, ce que vous aimeriez voir davantage ou moins. Donc voilà, je serais vraiment très reconnaissant si vous pouviez prendre ces 2 minutes pour m'aider à améliorer l'émission, et pour cela vous trouverez le lien sur la page d'accueil sur lesroutesdelasie.com. Je vous remercie infiniment en avance si vous prenez le temps de le faire. Enfin, pour aider aussi l'émission et puis faire plaisir, il y a la possibilité de laisser une appréciation sous forme de commentaire, que ce soit sur le site web, la page Facebook, le compte Twitter ou bien la page iTunes du podcast, où cette fois j'ai envie de citer le commentaire de Flodine qui dit « Interview de grande qualité, très beau travail, juste un regret que ça se limite à l'Asie ». fin du commentaire. Eh bien écoute, merci en tout cas pour ton mot, et c'est vrai, comme je viens de le dire, il y a encore tellement de choses à découvrir en Asie que je dois absolument me concentrer sur cette partie du monde. Et puis c'est là où j'habite et où je passe le plus clair de mon temps. Donc c'est vrai que ça fait aussi beaucoup plus de sens pour moi. Mais cela dit, je serais ravi un jour de voir d'autres podcasts naître sur le même concept en traitant d'autres parties du monde. Donc si quelqu'un parmi les auditeurs se sent la vocation de lancer la même chose pour une autre région, eh bien j'ai envie de dire foncez. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments en famille, prenez bien soin de vous et écoutez bien des podcasts, surtout, c'est très important. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve en 2016 pour encore plein de voyages en Asie. Joyeux Noël ! Doors are closing.